du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est la rentrée.
Et oui, et comme c'est la rentrée qu'on est très content de vous retrouver, on a décidé qu'on allait faire quelque chose d'assez joyeux. Laurent a trouvé plein de petites anecdotes. Il va vous raconter ça.
À tout seigneur, tout honneur, la première histoire concerne Lou Armstrong. Mais le Lou Armstrong jeune, pas celui qui a pris ensuite une dimension qui a complètement régné sur la musique de jazz. Là, nous sommes en 1924 et il vient d'entrer dans l'orchestre de Fletcher Henderson.
Alors il se fait petit hein, parce que c'est des gens de Harlem bien sûr à New York. Il est très impressionné quand même, mais il ne dit rien parce que il s'est toujours glissé très poliment partout.
Effectivement, arrivant de la Nouvelle-Orléans via Chicago avec ses grosses chaussures et les caleçons longs dans les chaussettes.
Et oui, ça faisait un peu différent.
Oui, oui, oui. Il se sent un petit peu belou là quand même. Voilà. Alors naturellement, répétition. Il s'agit du premier des grands orchestres de jazz, Fletcher Henderson. Et là, on distribue les partitions.
Et Fletcher donne une partition à Louis Armstrong, une partition de valse irlandaise. Et oui, on jouait aussi des valses irlandaises. En réalité, on jouait ce que les gens demandaient. Bref, Armstrong regarde la partition et à un endroit, il y a marqué deux petits P. De petit P, ça veut dire piano, piano, c'est-à-dire pianissimo. Et pianissimo, ça veut dire attention, il faut jouer très doucement.
Tout en nuance.
Donc, l'orchestre démarre et arrivé à pianissimo, Louis Armstrong, alors là, il s'y jette. Il envoie ça, une vraie fusée. Pam, 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 pam.
Naturellement, Fletcher arrête l'orchestre, le regarde avec de gros yeux, mais gentiment, parce que c'était pas un méchant homme. Il le regarde quand même, parce que là, il était très exigeant. Il le regarde et lui fait « Mais qu'est-ce que vous faites de ce pépé, là ?»
Et Armstrong lui répond « Bah, j'ai joué comme c'était marqué, plein pot !»
Et oui, en anglais, ça marche aussi, hein, plein pot. C'est la traduction de « pound plenty ». Alors évidemment, tout le monde a bien rigolé, et d'ailleurs, ça a sans doute un peu favorisé l'intégration de Louis Armstrong dans cet orchestre. Là, il était recruté, en fait, pour envoyer des solos hot, on disait ça à l'époque, c'est-à-dire le solo qui déménage. Alors là, ils n'ont pas été déçus. Nous allons vous en donner un exemple. Vous pourrez comparer la manière de jouer de l'orchestre et l'arrivée de Louis Armstrong, un solo de trompette absolument phénoménal. Et toute la production de Fletcher Henderson avec Louis Armstrong est un petit peu de ce tonneau avec des interventions de ce genre.
Vous allez entendre Shanghai Shuffle,
qui en est un bel exemple, très connu, des amateurs.
Thank you.
quand même, de temps en temps, Fletcher Henderson fait une fleur à son soliste Hutt et lui donne un peu plus de musique à jouer. En voici un autre exemple où Louis Armstrong est vraiment très en vedette. Et ça s'appelle « The Meanest Kind of Blues ».
Ça fait un peu rire parce que « meanest », ça veut dire franchement le pauvre dernier des derniers.
Ah oui, oui. En fait, c'est quelque chose comme le plus minable des blues. Hein. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Louis Armstrong a apporté dans ses soutes quelques morceaux de King Oliver, l'orchestre où il jouait juste avant, à Chicago. Et Fletcher Henderson et ses musiciens ont bien voulu arranger un de ses morceaux, celui qu'il préférait. Il s'appelait Deeper Mouth Blues, mais là on a rajouté quelques petits éléments, notamment un trio de clarinettes qui est resté d'ailleurs très connu. Et le titre a changé, ça s'appelle
Sugar Foot Stomp. Thank you.
La deuxième histoire concerne Cat Anderson. Cat Anderson, c'était un de nos grands amis. Il était trompettiste dans l'orchestre de Duke Ellington.
Et c'est lui qui faisait tous les suraigus.
Ah oui, alors Cat Anderson, c'était le champion absolu de la note suraiguë. Et en plus, il la jouait juste, ce qui est rarissime. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire siffler une trompette, mais la faire siffler comme Cat Anderson, ça n'avait jamais été fait avant et je crois que ça n'a jamais été fait depuis. En tout cas, ce soir-là, nous étions à Orange et après le concert, en famille, nous sommes allés passer un petit moment avec Cat. Et au moment de se quitter, il y avait un petit garçon qui était là.
Et ce petit garçon, c'était un jeune apprenti trompettiste qui regardait la trompette de Cat Anderson avec des yeux, mais des yeux, il l'aurait mangé. Et du coup, Cat, il avait enlevé l'embouchure, il l'avait posée juste à côté, hein. Il regarde non seulement la trompette, mais l'embouchure. Et visiblement, il s'attendait à quelque chose de complètement extraordinaire. Comme tu disais, Laurent, à une embouchure magique.
Oui, une sorte d'embouchure à la Harry Potter. Et donc, Kat nous dit, mais qu'est-ce qu'il veut ?
Et oui, puisque Kat ne parlait pas français, alors on demande au gamin. Et à ce moment-là, le gamin dit, ben l'embouchure, je voudrais la voir de près. Alors il la regarde de près, il semble assez déçu, le gamin.
Ah, il était totalement désappointé, et puis il l'a rendu à Kat.
Et Kat nous a regardé et nous a dit, dites-lui bien que c'est pas l'embouchure qui fait la note.
Quand on a dit ça au gamin, il est parti en se disant finalement qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Et pour illustrer ce propos, nous allons vous passer un disque qui en fait est un morceau de Georges Brassens. Parce que figurez-vous que le regretté Moustache, à l'époque où il était devenu l'animateur du club Lionel Hampton au Méridien à Paris, il avait eu l'idée, avec son ami Brassens, de monter des séances de jazz, des enregistrements, où on jouerait en jazz le répertoire Brassens. Et comme Brassens aimait énormément le jazz, ça n'a pas fait de difficultés particulières. Et à chacune de ces séances, Moustache a invité une star américaine. Et là, il avait invité Cat Anderson, et vous allez entendre.
Le temps ne fait rien à l'affaire.
Alors l'intervention de Cat Anderson, sur laquelle il faut quand même insister, se passe plutôt à la fin du morceau, après un passage de batterie. Et quand nous avons, nous, à répondre à la question « qu'est-ce que c'est que le swing ?», eh bien, on met ce disque-là et on dit « ben écoutez ce qui se passe après la batterie ». l'histoire suivante se passe le jour de ton anniversaire. Ben, c'est un jour d'anniversaire négatif puisque c'est 18 ans avant ton jour de naissance. Jour pour jour.
Ah bon ? Quelle chance !
Et ce jour-là, chez Columbia, on vient de passer de l'enregistrement acoustique, tu sais, dans les cornets, etc., à l'enregistrement électrique. On vient d'inventer le micro. Le vrai, d'ailleurs, celui dont on se sert encore.
Et mesdames et messieurs, c'est le progrès.
C'est le progrès. Et le micro, il est pendu au plafond. Et tous les musiciens sont amassés autour pour qu'on entende bien tout le monde.
Et oui, c'est pas très simple. Imaginez un petit peu un regroupement parce qu'un seul micro, alors que maintenant il y a des micros partout pour écouter chacun le sien. Mais à l'époque, là, c'était le Graal, vous savez, le micro, voilà.
On s'apprête à enregistrer Bessie Smith, Yellow Dog Blues. On n'est pas content du résultat.
Il y a des résonances dans la pièce. C'est très embêtant. Alors, ils ont une super idée. Ils vont mettre une énorme couverture en plafond, si on peut dire.
Oui, tendu sous le plafond.
Avec le micro qui pend juste en dessous, vous voyez. Et tout le monde s'installe. On fait quelques essais. On trouve que c'est très bien. L'orchestre démarre. Et là, la couverture tombe d'un coup sur tous les musiciens qui se débattent comme des fous.
Surtout que se débattre sous une couverture avec Bessie Smith, qui pesait plus de 100 kilos, qui avait une force absolument herculéenne et un tempérament assez peu patient, ça ne devait pas être mal.
Elle s'extirpe de la couverture folle furieuse et elle dit « J'ai jamais entendu une merde pareille !»
Finalement, on a conservé l'essai et ça a été la fin de la séance et de l'expérience du faux plafond en laine. La prochaine anecdote, elle se passe à St. Louis. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait vraiment un problème
noir, blanc, on ne les mélangeait pas, on les mettait les uns à côté des autres, mais jamais ensemble.
Surtout que Saint-Louis, c'est dans le Missouri, qui est un État qui pratiquait la ségrégation.
Alors, les orchestres étaient composés de noirs ou étaient composés de blancs.
Et les danseurs étaient ou noirs ou blancs. Là, il s'agit d'un dancing pour blancs. Mais l'orchestre est noir. Et c'est celui de Benny Carter.
Et Benny Carter, le chef d'orchestre, s'aperçoit qu'il y a un couple de danseurs, blancs bien sûr, qui ne cesse de regarder de façon très intriguée le pianiste. Ils dansent, mais ils reviennent tout le temps, ils regardent le pianiste. Et puis les deux danseurs blancs, ils se rapprochent de plus en plus. Ils finissent par s'adresser à Benny Carter.
Et la fille lui demande « Excusez-moi, monsieur Carter, mais votre pianiste, là, il est blanc ou il est noir ?»
Et Benny Carter a cette réponse.
« Je ne sais pas, je ne lui ai jamais demandé. »
Et ça, c'est la négation de tous ces racismes stupides, mais en même temps, il est resté très poli.
Eh bien, voici un morceau de l'orchestre de Benny Carter, c'est un grand orchestre, qui est enregistré exactement à la même époque et qui s'appelle « Je ne peux pas me passer de vous ». Racontez maintenant concerne un tromboniste qui n'a enregistré que deux morceaux dans toute sa vie. Il était de la Nouvelle-Orléans et il s'appelait Zoo Robertson. Il était monté comme beaucoup de monde à Chicago. Et là, ça se passe dans une séance d'enregistrement de Jelly Roll Morton.
Alors, il faut savoir que Jelly Roll Morton est un homme dont tout le monde sait qui était vraiment, vraiment pas commode.
Ah non, pas commode du tout, il savait ce qu'il voulait et la musique qu'il entendait laisser derrière lui était absolument la musique qu'il avait réfléchie, calculée et même notée auparavant. Donc,
Travail au petit poil.
Et ce jour-là, on est donc au studio. Le tromboniste Zoo Robertson se trouve aux prises avec un passage de trombone.
Qui ni ne lui plaît pas, peut-être, mais peut-être aussi qu'il ne sait pas bien jouer, quoi.
Ah ben je ne sais pas bien, mais en tout cas, il ne joue pas ce passage, comme Jelly Roll Morton veut que ça soit joué. Finalement, dans un grand silence, Jelly Roll Morton sort de sa poche un énorme revolver et le pose sur le piano. Et un regard appuyé au tromboniste.
Et le trombone, imaginez-vous, il a joué le solo note pour note, c'était impeccable.
C'était impeccable, mais j'ai trouvé, à écouter ce morceau que nous allons vous passer, qu'il règne un certain climat et que le moment du passage de trombone, c'est un peu vers la fin du disque, et le vibrato un peu tremblotant du trompettiste souligne une ambiance assez tendue et finalement, le coup n'est pas parti. Ça s'appelle London Blues. Comme vous avez pu le constater, ce morceau, dans son exécution, n'est pas un véritable chef-d'œuvre. Et c'est pourquoi, sans doute, quelques années plus tard, Jelly Roll Morton a souhaité qu'il soit réenregistré dans des conditions un peu plus performantes. Il a changé le titre, et vous allez le réentendre, donc sous un autre nom, mais avec quand même de la musique beaucoup plus, maîtrisée. Ça s'appelle...
Shoeshiner's Drag, la danse du cireur de chaussures. Thank you.
Voici maintenant une histoire de voisinage. Tout le monde connaît Nat Cole. Nat Cole était un fabuleux pianiste, mais le jour où il s'est mis à chanter, il est devenu Nat King Cole et mondialement connu en tant que crooner.
Au fond, c'était une vedette, mais une vraie oui. vedette, même chez les Blancs. Hein.
Ah oui, mais c'est une vedette planétaire.
Et alors, c'est amusant parce qu'il lui est arrivé quand même une aventure. Il achète une maison.
Ah bah oui, parce qu'il avait des sous.
Il avait des sous.
Dans un quartier chic.
Eh bien oui, parce qu'en Amérique, on déménage très facilement suivant son statut social. Dès qu'on grimpe un petit peu dans la société, dès qu'on a une promotion, on va aller dans le quartier des gens qui ont le même niveau de vie.
Oui, seulement le problème, c'est que ce quartier chic-là, c'est aussi un quartier blanc.
Il arrive là, grande vedette. Et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il se passe que les voisins organise une pétition contre l'arrivée dans le quartier de gens indésirables.
Il apprend qu'il y a une pétition, très probablement initiée par son voisin le plus proche. Et là, il se dit, que faire? Le lendemain, il va chez le voisin. Il lui dit, je voudrais bien signer la pétition. Le voisin ouvre des yeux, absolument effaré.
Mais il n'a pas pu refuser.
Eh oui.
Eh oui. Ben même s'il y a un noir, parce que vous avez compris, je suppose que Nat King Cole était noir, si vous ne le saviez pas.
Il a expliqué au voisin, Nat King Cole, vous comprenez, je veux pas non plus avoir à côté de chez moi n'importe qui.
Alors je suppose que maintenant, vous vous attendez tous à ce qu'on vous passe Route 66. Eh bien, vous ne serez pas déçus.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Tip when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
L'histoire suivante s'est passée sur une île qui était assez réputée pour un grand terrain de golf. Le héros de cette histoire s'appelle Matty Matlock, il était clarinettiste et saxophoniste et arrangeur.
Et c'était un fondu de golf.
Ah oui, un fondu de golf, mais apparemment il était meilleur musicien que golfeur. Il participe à une partie de golf matinale sur le grand terrain de golf de l'île de Catalina.
Alors là, il fait un geste ample.
Ah oui.
Fort.
Un drive.
Un drive extraordinaire.
Directement en pleine figure d'un des joueurs, lequel tombe raide par terre.
Non pas mort, mais dans les pommes complètes.
Ah, complètement dans les pommes. Alors naturellement...
Vite, vite, amenez un médecin.
Appelez un médecin. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Matty Matlock a knockouté le seul médecin de l'île. Eh bien, pour illustrer son talent de musicien, là, je pense qu'il a évité d'éjecter la clarinette dans le public, ou le saxo. Voici un morceau où on l'entend jouer de l'orchestre Bob Crosby, le frère de Bing, dans lequel il jouait. Et le morceau est un morceau de répertoire de la Nouvelle-Orléans, un vieux morceau de parade qui s'appelle la parade du rempart sud.
South Rampart Street Parade.
Thank you.
Voici maintenant un phénomène. Il s'appelait Hubie Blake. Il était pianiste, mais également compositeur. Il a composé des standards très connus. Créateur de revues, il était sur le tas déjà bien avant la guerre de 14. Et Hubie Blake est mort à 100 ans et quelques jours. Et il paraît que son dernier mot a été « Si j'avais su que je vivrais si vieux, j'aurais pris plus soin de ma santé.
» Déjà.
Pas mal.
C'était déjà l'homme.
Mais il faut dire que Hubie Blake n'était pas connu que pour son talent de pianiste et de musicien.
C'est que c'était un sacré amateur de femmes. Et apparemment, ça se passait plutôt bien parce qu'il en a eu des tas, des tas et des tas. Et jusqu'à un âge tout à fait avancé, quand même, ça épatait tout le monde, ça. Ce type qui, il avait 80 ans, des tas de bonnes femmes, et 90 ans, c'était pareil.
Et le jour de ses 97 ans, quelqu'un lui demande « Comment faites-vous pour avoir une vie sexuelle encore à cet âge-là »
On voulait son secret. Normal.
Quel est votre secret? Et Hubie Blake a répondu « Je ne sais pas. Il faudrait que vous demandiez à quelqu'un de plus vieux que moi. » Eh bien, voici... À 97 ans, un morceau enregistré par Hubie Blake au piano qui s'appelle
Troublesome Ivories.
Alors, Ivories, c'est les touches du piano. Et troublesome, ça veut dire fatigant.
C'est un petit peu fatigant, ces touches d'ivoire.
Oui, surtout à 97 ans. Mais en fait, c'est un morceau qu'il jouait depuis très 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 longtemps. Donc, il était peut-être, après tout, fatigué de naissance. Et c'était peut-être ça, son secret.
Troublesome Ivories, ladies and gentlemen. I'll do it again.
Nous allons finir avec un batteur. Ce batteur est très connu car ce fut longtemps celui d'Errol Garner. C'était un très bon batteur, que moi je trouve tout à fait méconnu d'ailleurs. Mais je pense que c'est parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup consacré sa vie au studio, et donc en se moquant un petit peu de faire carrière dans le showbiz finalement. Il s'agit de Spex Powell. Et un beau jour, Spex Powell est recruté par la CBS pour être le batteur de l'orchestre maison. Grand orchestre, qui pouvait tout jouer, y compris du symphonique. Hein. Et naturellement, dans cet orchestre, il y a un percussionniste.
Qui le regarde de haut. Et puis les gens se disent, tiens, c'est bizarre, il y a deux types qui battent sur des tambours, qu'est-ce que c'est ? Et les gens se renseignent, on leur dit, ben, il y a un percussionniste et un batteur. Alors on va voir Spex Powell, puisque c'était celui qui était quand même peut-être le plus abordable. Et on lui demande, mais quelle différence il y a entre un percussionniste et un batteur ? Et il répond,
quelque chose comme $300 par semaine. Eh bien, nous allons nous finir justement avec Errol Garner, avec Spex Powell à la batterie. Vous profiterez donc d'un très bon piano, d'un très bon batteur, d'un excellent bassiste également, puisque Garner joue en trio, et d'une rareté. Car Garner a très peu enregistré de blues, et celui-là, c'est un de ceux que je préfère. Il s'appelle...
Way Back Blues.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.